Bonjour à tous, l'émission d'aujourd'hui a été préparée par Mounia Van de Castel, Arjuna Andrade, Cédric Fuentes et Cyril Brenning. À la réalisation Marie Placé, prise de son Anthony Thomasson.
Entendez-vous l'écho ? Par Maïlys Besri.
Troisième jour de notre série sur la mondialisation. Nous avons évoqué cette semaine David Ricardo, les théories du commerce international et le processus historique par étapes de la mondialisation. La mondialisation, processus complexe qui allie des questions économiques à d'autres enjeux politiques, stratégiques et géopolitiques. L'une des manières d'aborder la mondialisation passe par l'étude des flux et des migrations. Ce sont des migrations pour cause économique dont nous allons parler aujourd'hui jusqu'à 15h. Vous êtes sur France Culture et c'est Entendez-vous l'écho. Notre sujet d'aujourd'hui est l'économie des migrations et nous allons l'aborder en compagnie de El Mouhoub Mouhoud, professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine et auteur de l'immigration en France publié aux éditions Fayard et de mondialisation et délocalisation des entreprises, audition La Découverte. Face à vous, Hillel Rapoport, professeur d'économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l'École d'économie de Paris. À 14h50, Mounia Van de Castel sera parmi nous pour nous donner des nouvelles de l'écho. Alors bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous pensez déjà de cette idée de économie des migrations ou migration pour des causes économiques ? Est-ce que ça a un sens, El Mouhoud ?
Oui, bien sûr, ça a un sens. Les gens quittent leur pays pour tenter d'améliorer leur bien-être, leur niveau de vie, trouver un emploi et de mieux éduquer leurs enfants. Et donc il y a évidemment des déterminants économiques des migrations internationales qui sont très 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 nettes. Et la migration internationale est une composante parmi les cinq dont je vais parler peut-être tout à l'heure de la mondialisation. Donc en effet, il y a un sens à parler de déterminants économiques de l'immigration.
Si on précise ça, c'est pour dire qu'on ne parle pas de migration, de réfugiés, de gens qui migrent pour des raisons politique.
Oui, il y a plusieurs déterminants de l'émigration. Il y a l'émigration, effectivement, ce dont je viens de parler, l'économique. Ensuite, il y a effectivement des conflits,
des raisons humanitaires,
des chocs et qui provoquent des départs de personnes. C'est ce qu'on appelle des migrations forcées et pas volontaires. Les migrations économiques sont en général volontaires. Les gens ont des projets. Ils essayent de planifier un peu leur projet d'émigration. Alors, c'est pas facile d'émigrer, c'est coûteux. Et ils vont essayer de trouver des stratégies. Ils mettent en place des stratégies individuelles pour pouvoir passer les frontières et essayer d'améliorer leur vie. Donc ça, c'est des migrations économiques, mais il y a des conflits. Sur les dix dernières années, on a à peu près 15 conflits dans le monde, au Moyen-Orient, en Afrique, etc., qui font que des migrants forcés viennent en Europe. Et ces migrations forcées ne sont pas exactement de la même nature que les migrations économiques, par définition. Et puis, on peut ajouter à cela des migrations forcées qui sont liées aux désastres climatiques, aux chocs justement environnementaux, et qui font que des gens qui sont dans leur pays, sont obligés de quitter leur région pour aller vers une autre région ou vers un autre pays.
Ce terme de choix, Rapoport, ce terme migration voulue ou migration volontaire, est-ce que c'est un terme qu'on utilise couramment dans les études ou est-ce que c'est un terme qui est encore polémique ou est-ce que c'est le terme consacré tout simplement pour parler de cette catégorie-là de migration ?
Non, en sciences politiques, en droit, ce sont des catégories qui sont tout à fait pertinentes. En économie, puisque le thème de l'émission, c'est l'économie des migrations, on s'intéresse à ce qu'a développé Mouhoud, donc la décision de migrer sous un angle économique, les coûts, les avantages pour les individus de ces migrations, mais aussi aux conséquences économiques de ces migrations qui sont importantes à la fois pour les pays d'accueil et pour les pays de destination. Donc c'est une discipline, l'économie des migrations, effectivement un champ de connaissances et de recherche en économie.
Il ne faut pas oublier qu'on a 48% de femmes à l'échelle mondiale parmi les migrants. Donc on a presque autant de femmes que d'hommes aujourd'hui. Et si on regarde les migrations vers l'Europe, par exemple, on a même plus de femmes que d'hommes aujourd'hui dans les pays européens parmi les migrants internationaux. Alors les raisons de la migration sont surtout économiques. Économiques, c'est-à-dire trouver un meilleur contexte pour le marché du travail, pour des gens qui migrent du sud au nord pour l'essentiel. Mais aujourd'hui, on a presque autant de migrants qui vont du sud au sud ou du nord au sud que de migrants qui vont du sud au nord ou du nord au nord. Et ça, c'est une vraie révolution, parce que pendant très longtemps, pendant toutes ces 60 dernières années, on avait essentiellement des migrations sud-nord. Aujourd'hui, le sud attire. Donc ça, c'est très important pour différentes raisons. D'une part, les pays du sud ont moins de contrôle de leurs frontières, parfois pas du tout de politique migratoire. Donc il est plus facile d'entrer du sud au sud, même si le statut est souvent moins avantageux que du sud au nord. Il ne faut pas oublier que les pays du Golfe sont la troisième destination migratoire au monde, que la quatrième destination, qui n'est pas le sud, mais qui est considérée comme un pays émergent, c'est la Russie. Et donc, l'Europe et les États-Unis et le Canada ou l'Australie ne sont plus les seules destinations migratoires.
On entendait Catherine Vitol de Venden. Je vous voyais justement hausser les sourcils, elle moumoude. Vous n'êtes pas d'accord avec ça?
Non. En fait, c'était des confusions entre le nord-nord, le sud-nord, etc. En fait, la réalité, elle est plus simple que ça. Il y a effectivement 40% des migrations qui vont du sud vers le nord. Et c'est essentiellement des migrations économiques et qui prennent les corridors qui sont liés aux liens historiques entre les pays.
Hein. Donc à la colonisation notamment.
Voilà, les liens institutionnels, etc. Et ce sont des gens qui partent pour encore une fois, essayer de trouver un emploi, améliorer leur salaire, leur vie. Et puis il y a des migrations sud-sud, en effet, qui sont très importantes, mais entre pays du sud de même niveau de développement, qui représentent à peu près 40% des migrations internationales, et qui sont des migrations qui ont une frontière, entre pays qui ont souvent une frontière commune.
Donc
alors que les migrations sud-nord se font entre des pays qui n'ont pas forcément la même frontière. Hein. Donc le Maghreb vers la France, c'est pas la même frontière, mais il y a des liens historiques coloniaux. Et puis ensuite, quand on regarde les migrations nord-nord, ça représente à peu près 20%. Donc on est à 100% là, hein, si j'ai bien calculé. Et vous avez quelque chose qui m'avait fait un peu disons, c'est les migrations vers les pays du Golfe, c'est les migrations vers des pays à haut revenu qui sont pas membres des pays de l'OCDE, mais qu'on peut pas considérer comme des pays du sud. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est vraiment là aussi des écarts de revenus, des écarts de niveau de vie qui vont engendrer des flux d'émigration de l'Égypte vers les pays du Golfe, du Maghreb vers les pays du Golfe, ou d'Asie très fortement vers les pays du Golfe. C'est parce que ce sont des pays qui ont des ressources financières énormément, mais peu de travail dans les typologies internationales.
Hélène Rapoport, qu'est-ce qu'on peut dire des femmes, puisque Catherine Vitol de Venden nous dit qu'il y a environ 48% de femmes, à savoir la moitié?
Oui, c'est exact.
Est-ce que ça a évolué? Qu'est-ce qu'on peut en dire?
Oui, ça a évolué. C'est pas que la migration internationale était massivement masculine, mais elle était de manière dominante. Et c'est vrai qu'il y a eu des rééquilibrages au cours des dernières décennies. Ça vient de plusieurs phénomènes, y compris la forte demande internationale pour certaines professions qui sont assez féminisées, comme les infirmières, les personnes qui s'occupent de soins aux personnes âgées, ce type de choses, des services de manière générale. C'est aussi en partie une migration qui se fait plus de manière familiale qu'individuelle par rapport aux décennies précédentes, donc avec mécaniquement une proportion de femmes plus importante. Donc il y a un certain nombre de phénomènes qui expliquent ça. Ce qui est peut-être intéressant, si on veut parler spécifiquement des migrations féminines, c'est qu'il y a une surreprésentation des femmes parmi les migrants qualifiés. Surreprésentation par rapport à la part des femmes dans les populations qualifiées des pays en développement. Donc le taux d'émigration des femmes qualifiées des pays en développement est significativement plus élevé que celui des hommes. Donc on a cette surreprésentation.
Comment est-ce qu'on l'explique?
Alors on l'explique d'une part par cette demande pour certaines professions qui sont qualifiées et assez féminisées, et on l'explique aussi par ce qu'on va appeler le marché du mariage de manière générale, c'est-à-dire que les hommes qualifiés vont chercher à épouser souvent des femmes originaires de leur pays, de leur communauté, mais qui sont elles-mêmes qualifiées, ce qu'on appelle le assortative matching. Mais comme elles sont relativement peu nombreuses au pays, en termes d'émigration, elles vont représenter des parts, des proportions importantes des flux migratoires. Donc c'est difficile de faire la part des choses entre ce qui relève de cette migration, disons, familiale et conjugale, de ce qui relève de l'aspect plus professionnel. Mais les deux vont dans le même sens.
El Moumoud,
Oui, je compléterais juste ce que vient de dire Hillel Rapoport en indiquant qu'en effet, les migrations d'aujourd'hui, il y a 10-20 ans à peu près, sont devenues très coûteuses, contrairement aux migrations des années 60-70, où on allait chercher les migrants, où on les sélectionnait d'ailleurs parce qu'ils n'étaient pas qualifiés. On le voit dans un film qui s'appelle « Mémoire d'immigrés » de Yamina Benguigui, on voit comment les pères de la première génération qui arrivent en France viennent, sont sélectionnés, et les coûts d'immigration sont supportés par les pays d'accueil. Les mines, le bâtiment, les travaux publics, ces entreprises-là vont chercher les migrants et les sélectionnent pour leur force physique, et sélectionnent surtout des hommes d'ailleurs, des hommes jeunes. Et à partir de l'arrêt de l'immigration vers la fin des années 70, 74, 75, là, les coûts de migration ont été transférés vers les individus eux-mêmes. Et donc c'est ça coûte cher d'émigrer, et ça crée ce que les économistes appellent un phénomène d'auto-sélection, c'est-à-dire qu'on se sélectionne pour pouvoir partir, et ne part pas qui veut. Plus on est qualifié, plus on a des chances de partir. Et c'est pour ça qu'on a une surreprésentation dans les vagues d'immigration récentes des qualifiés parmi les migrants. Et s'ajoutent à cela les femmes, qui sont elles aussi surreprésentées, comme vient très bien le dire Hillel, parmi les migrants qualifiés, elles sont surreprésentées parce qu'elles subissent en quelque sorte un coût supplémentaire par rapport aux hommes, en particulier dans les sociétés patriarcales. Elles subissent un coût de d'émancipation. Et la seule possibilité pour elles de partir et de s'émanciper, c'est soit, comme ça a été dit, le mariage, soit l'éducation et le diplôme qui leur donnent un passeport de mobilité. D'où une tendance des femmes à investir davantage dans l'éducation pour pouvoir augmenter leurs chances de pouvoir émigrer.
On va écouter un extrait de ce documentaire que vous venez de citer, Mémoire d'immigrés, l'héritage maghrébin, qui date de 1998.
De petit, je suis là, j'ai 13 ans, j'étais berger, j'ai gardé les moutons quand même depuis 12 ans.
Vous avez gardé quoi?
Les moutons, j'étais berger. C'est qu'est-ce qui c'est berger, ils gardent les moutons dans les champs. C'était pas dur, mais je ne gagne pas beaucoup. Alors, et puis, il y a mon oncle qui m'a envoyé une lettre.
Où était votre oncle?
Il est ici en France, il travaille chez Renault, mécanicien. Alors, il m'a envoyé une lettre, il m'a dit, si vous voulez venir ici en France, il y a du travail, tu gagnes plus que là-bas. J'ai cherché partout, dans le bâtiment, dans toutes les usines. Toujours, il m'a demandé si tu sais lire français et est-ce que vous avez certificat d'études. Alors après, pendant 2 mois, je cherche du travail. Et puis quand je trouve du travail, je tourne le code de soir pour apprendre. Alors après, j'ai embauché chez Citroën. Comme cariste, quoi. Pendant 15 jours, je prends par cœur le travail, puis lire, consigne pour en faire pas un accident dans l'usine, connaître, par exemple, votre chef, écouter les ordres de chef, travaille bien.
Alors ce témoignage d'un immigré algérien qui explique son départ, c'est justement un témoignage des années 60. Et là, on arrive dans les critères que vous décriviez, Hillel Rapoport, à savoir la nécessité d'émigrer pour des raisons économiques, de trouver un emploi. C'est le déplacement des travailleurs. Et là, on est dans un mouvement de migration plutôt classique.
Oui, alors je pense qu'il faut réaliser que les migrations sont présentées comme faisant partie de la mondialisation. Mais en réalité, dans cette période qu'on a appelée mondialisation, il y a effectivement le commerce, les flux de commerce qui ont été libéralisés, les flux de capitaux. Mais pour les hommes, les années 80, 90, 2000, au contraire de la libéralisation qu'on a vue dans toutes les autres dimensions de l'économie internationale, pour les hommes, c'est devenu de plus en plus difficile de bouger. Donc ce témoignage qu'on entend, qui doit dater des années 60, j'imagine, post-indépendance algérienne, voire des années 50, quand les premières vagues de travailleurs immigrés sont arrivées à la demande des entreprises, des employeurs français, en France, ça a beaucoup changé. Maintenant, pour quelqu'un qui vient d'un pays en développement, qui n'est pas très qualifié, ça devient quasiment impossible, sauf à prendre les voies très risquées de des entrées illégales, de traverser la Méditerranée, traverser les frontières de manière très risquée, c'est devenu
pour des raisons politiques, c'est essentiellement des barrières, des visas,
on a changé d'époque. Et même ça se ressent dans les chiffres globaux. Le nombre de gens qu'on considère comme des migrants, c'est-à-dire des gens qui vivent dans un pays différent de celui où ils sont nés, était de l'ordre de, selon les estimations, 6 à 8% il y a un siècle, et c'est de l'ordre de 3% aujourd'hui. Donc, si on mesure,
donc au moment de la première mondialisation, c'est-à-dire fin 19e jusqu'à la première guerre mondiale,
c'était vraiment la mondialisation des hommes, des capitaux et du commerce. Celle qu'on vit actuellement, c'est une mondialisation des capitaux, du commerce et des hommes, à condition qu'ils soient très qualifiés et demandés. Pour les autres, ça n'est pas le cas.
On voit que cette question de la circulation des individus, elle intervient de manière, elle est une composante complexe de la mondialisation, dans la mesure où on a toujours des difficultés à savoir quelles conjonctions de critères sont pris en compte, entre les critères de mobilité économique, entre des critères culturels. On voit qu'il y a toujours une conjonction de facteurs pour parler de ces migrations.
Oui, parce que en fait, on peut pas dans la décision d'un individu ou d'un groupe familial d'ailleurs, hein, parce que les migrations, elles sont aussi pas seulement une décision purement individuelle, mais d'un ménage entier qui, en particulier à cette époque-là, des années 60, là dont on parlait, les migrants dans les familles étaient délégués par le chef de ménage pour aller travailler en France, par exemple, et transférer de l'argent vers le pays, tandis que d'autres s'occupaient de la terre ou dans les villages ruraux des pays du Maghreb, par exemple. Donc il y a une décision qui est collective.
Donc étant donné ces difficultés, quelle est la méthode pour étudier ces migrations?
Ben, la méthode, c'est effectivement d'essayer de regarder quels sont les déterminants. On a des données qui sont des données, soit des données statistiques, soit des données d'enquête, et on regarde les motivations. Surtout dans les données d'enquête, on peut connaître les motivations des individus pour partir. Alors on va trouver les différences de salaire, la volonté d'améliorer son revenu, la volonté de trouver un emploi, la volonté de trouver de l'éducation, la volonté d'accéder à des aménités, ce qu'on appelle des aménités, c'est-à-dire des sources d'attractivité liées à la démocratie, à l'école, aux infrastructures, etc. Et puis, il y a des facteurs qui sont des facteurs liés à la mobilité, au coût de la mobilité, qui viennent d'être évoqués. Et ces coûts de mobilité, eh bien, ils interfèrent dans le choix décisionnel des candidats à l'immigration. Vous pouvez très bien avoir envie d'aller aux États-Unis, mais si vous êtes très peu qualifié et si le coût de migration est très 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 élevé, vous allez vous retrouver peut-être dans un pays où ça vous coûte moins cher de partir. Donc le coût de mobilité est un coût tout à fait central dans la manière dont ça structure les flux d'immigration internationale. Par exemple, là, au moment où on importait cette immigration pendant la grande période de croissance des années 60-70, enfin après la
Trente
Glorieuses, eh bien les coûts ne comptaient relativement pas, les coûts de migration. On allait chercher les gens, on les employait, mais à partir du moment où effectivement les gens doivent se débrouiller par eux-mêmes, là ça devient, disons, structurant dans les choix et sélectionnant dans les choix. Donc évidemment, les gens qui vont pouvoir partir sont les gens qui vont être les plus qualifiés, les meilleurs, les qui vont s'auto-sélectionner, qui vont devenir ceux qui peuvent réussir à achever leur projet migratoire.
Pour réussir justement à analyser cette économie des migrations, quels sont les flux qu'il faut mettre en relation les uns avec les autres dans l'analyse Helmut Maud?
Il faut mettre en relation les flux des migrations, les décisions de départ, hein, par exemple, avec, si on est, par exemple, au niveau macroéconomique, on peut regarder les différentiels de revenus, hein, de PIB par habitant, on peut regarder les inégalités entre les pays, les écarts d'emploi par secteur, et puis on regarde ces effets de réseau, qui sont le fait que vous alliez dans un endroit où il y a déjà des gens qui appartiennent à la même communauté que vous et qui vont vous réduire les coûts d'insertion, les coûts d'installation, donc les coûts de mobilité.
C'est la question de la diaspora.
Voilà, par exemple, là, ça, c'est des éléments qu'on peut prendre en compte. Et puis, si on est plus au niveau microéconomique, là, on peut regarder vraiment des variables très précises, comme quelle est la probabilité de partir d'un pays A vers un pays B en fonction des caractéristiques individuelles des individus qui veulent partir, la qualification, les salaires, l'occupation d'un emploi, lequel type d'emploi, la taille du ménage, la localisation, etc. Donc plus on travaille sur des données individuelles, des données d'enquête, plus on peut affiner les motivations pour partir et les mettre en relation avec la décision de partir.
Alors vous avez parlé de la proportion des migrants dans la population qui est passée de 3% dans les années 30 à 10% en moyenne. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'évolution des chiffres de manière générale? Alors évidemment, on parle en proportion puisque la démographie a évolué. Il a le rapport.
De la proportion dans, au niveau mondial ou dans les pays
oui.
développés.
Oui, la proportion des migrants dans la population.
Donc elle a baissé. Hein, elle était de l'ordre de 6% à 3%. Donc elle est moins importante aujourd'hui qu'elle n'était il y a un siècle. Par contre, au cours des 50 dernières années, au niveau mondial, c'est très stable. Ceci étant, si on s'intéresse aux pays de l'OCDE, donc les, le groupe de pays le plus riche, le plus industrialisé, là, la part des gens nés à l'étranger est passée de l'ordre de 3% à 10% au cours des 30 dernières années, hein, puisque là, la population de ces pays a une croissance démographique relativement faible. Il s'agit de migrations sud-nord qui sont les plus dynamiques et les plus importantes. Et l'accroissement de la part de la population étrangère dans les pays de l'OCDE, de l'ordre, je vous dis donc, de 3-4% à 10-12% aujourd'hui.
Vous dites que les plus importantes, mais on a le sentiment que c'était les migrations sud-sud sont presque équivalentes. En tout cas, on arrive à 40% si on suit ce que disait Helmut.
Oui, mais d'une part, la population des pays du sud croît démographiquement. De manière beaucoup plus importante que celle du Nord. Donc même s'il y a plus de gens qui migrent, il reste une proportion relativement stable de la population de ces pays, alors que dans les pays du Nord, ces migrations qui sont plus nombreuses se traduisent par une part de la population étrangère plus importante, puisque la croissance démographique naturelle de la population native est beaucoup plus faible que ce que dans les pays du Sud. Donc ça c'est... Et par ailleurs, bon, je pense que la migration... Malgré le, enfin, on a peut-être des sources différentes, mais la migration sud-nord augmente plus vite que la migration sud-sud.
Qu'est-ce qu'on peut dire de cette
part c'est une part qui va en augmentant dans les migrations internationales.
Pour revenir sur cette question de la migration sud-sud, est-ce qu'on peut dire que de manière générale, peut-être les chercheurs s'y intéressent un peu moins, que la littérature est plus mince à l'égard de cette migration-là, Helmut?
Non, les chercheurs s'y intéressent. Hein, les travaux qui sont menés sur les migrations internationales ne choisissent pas des frontières. Non, si vous travaillez sur les migrations au Mali, on différencie les flux de migration vers les pays du Sud et vers les pays du Nord. Non, je crois qu'il faut, simplement savoir que ça relève pas des mêmes logiques. La migration Sud-Nord, elle a augmenté effectivement en termes absolus. La migration internationale en général a augmenté en termes absolus. Ce qui a été dit sur le fait que c'était 6% de la population mondiale entre 1870 et 1910 durant la première mondialisation, c'est tout à fait vrai. Et c'est aujourd'hui à peu près 3%. Et en 1960, c'était 2,5% seulement. Donc la pression migratoire, qui est le rapport entre finalement les migrations internationales permanentes et la population mondiale, est restée relativement stable, contrairement à ce qu'on raconte. Mais ça ne veut pas dire qu'en termes absolus, ça n'a pas augmenté. Sur les 20 dernières années, on est passé de 150 millions de migrants internationaux à 250 millions de migrants internationaux. Et évidemment, avec une augmentation des flux vers le nord, qui est tout à fait significative. Les flux vers le sud restent une proportion importante et augmente aussi parce que les migrations liées au choc climatique ou au choc politique, guerre, etc., bah, se traduisent par des déplacements de population d'abord en interne, à l'intérieur des pays, puis vers les pays voisins. Regardez la Syrie, le choc sur la Syrie, ça s'est traduit par 1,5 million de migrants vers le Liban, 2 millions en Turquie, il y a eu à peu près 6 millions de déplacés, et en Jordanie, 800 000 à peu près, et puis il y a eu seulement 1,5 million dans les pays de l'OCDE, et sur ce 1,5 million dans les pays de l'OCDE, 1,3 million est venu en Europe.
Est-ce que ce sont les mêmes caractéristiques qui font migrer dans un pays voisin, ou est-ce que c'est parce que c'est peut-être plus simple à envisager, moins coûteux?
Les caractéristiques individuelles vont jouer dans la possibilité de choisir des pays qui sont des pays développés, des États-Unis ou l'Europe. Et le niveau de richesse initiale du ménage, le type d'emploi occupé, le niveau d'éducation, etc., vont jouer un rôle dans les réseaux qu'entretiennent les migrants, les candidats à l'immigration avec des migrants qui sont ailleurs éventuellement, vont jouer un rôle, bien entendu. Mais ça n'est pas du même ressort que les décisions d'émigrer sud-nord, qui sont tirées à la fois par des politiques de demande à partir des pays d'accueil, hein, des effets qu'on appelle pull, hein, c'est-à-dire d'attractivité, et puis par des effets
notamment
push,
pour des raisons démographiques,
voilà, et
pays.
Puis des effets push qui sont liés aux effets démographiques et aux effets économiques. Les gens qui sont dans des situations de sous-emploi ou qui sont pas du tout heureux dans leur emploi ou qui n'ont pas de perspective économique à long terme d'éducation vont décider de partir vers le nord. Voilà la situation à peu près des migrations internationales. Donc c'est pas parce qu'on a une pression migratoire qui est plus faible que durant la première deux fois plus faible que durant la première mondialisation, qu'en termes absolus, le nombre de migrants n'augmente pas. Il augmente en termes absolus. Il augmente même très substantiellement.
Mon métier, c'était sélectionner la main-d'œuvre pour les employeurs français. Vous aviez des gens qui, au début, étaient assez réticents, des employeurs assez réticents à employer de la main-d'œuvre maghrébine, parce qu'ils étaient habitués à la main-d'œuvre italienne et à la main-d'œuvre espagnole. Moyennant quoi, leurs besoins faisant force de loi, il a bien fallu qu'ils s'adressent à la main-d'œuvre marocaine. Autrement dit, vous aviez tous les secteurs de l'économie française. Il y avait surtout le secteur automobile, le secteur agricole et le bâtiment. Il y avait un accord donc entre le ministère du Travail marocain et l'Office d'immigration au Maroc pour sélectionner dans certaines zones des contingents. Mais j'aime pas beaucoup le mot contingent parce que contingent, ça fait masse. Quand je dis des contingents, c'était des chiffres. Hein. On prenait 300 travailleurs dans la province de Marrakech, 250 dans la province de Fès, 150 dans la province de Taza, etc. Autrement dit, on partageait le gâteau de l'immigration. D'une façon générale, nous avons préféré, pour des raisons de mentalité, nous avons préféré sélectionner en zone rurale plutôt qu'en zone urbaine. Comment je vais vous dire ? Il y avait peut-être une plus grande... C'est pas une question de discipline. Une plus grande maniabilité de la personne, souvent plus disposée à vraiment aller travailler en France. Je sais pas, je peux pas vous dire, parce que notre responsabilité était en jeu. Si le travailleur qui l'envoie va être, je m'excuse de l'expression, un produit, j'aime pas ce mot, un produit de valeur pour la personne qui a sollicité ses services. Donc, je dois dire, c'est pas un autre gloriole, mais je dois dire que avec la main d'œuvre de marocaine, il y a eu très 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 peu de déchets, moins de 2% de déchets sur tout ce qu'on a envoyé, parce qu'il y a des années, on a envoyé 50 000 personnes.
Hilal Rapoport, on sourit, mais on sourit un peu jaune à l'écoute de ces mémoires d'immigrés, puisque on entend que d'un côté, il y a eu effectivement la circulation des travailleurs, mais il y a eu tous ces accords entre les pays, et on se demande bien justement qu'est-ce qu'on peut dire de cette mondialisation, en tout cas en ce qui concerne la circulation des personnes, puisque d'un côté on a le sentiment qu'il y a eu une libéralisation, et puis des accords conjoncturels comme ça, qui ont imposé des décisions.
Oui, la photo globale, c'est quand même celle de restrictions croissantes hein, qui ont été mises sur l'immigration. Par exemple, les passeports, les visas sont des inventions assez récentes. Les gens qui migraient à la fin du 19e siècle vers les pays neufs, hein, les États-Unis, l'Argentine, etc., avaient éventuellement besoin de documentation pour prouver leur identité, mais il n'y avait pas vraiment de restrictions légales. Il y avait des tests médicaux, ce type de choses, mais pour l'essentiel, c'était une migration qui était libre. À partir du moment où il y a eu des barrières qui ont été mises, pour contourner ces barrières de manière légale, ça peut passer par des accords entre gouvernements. Et ça, sont tous les programmes de l'après-guerre qu'on a eu. Bon, l'exemple type, c'est le programme de travailleurs invités, de guest workers en anglais, en Allemagne, pour les travailleurs turcs. Il y a eu le Bracero programme aux États-Unis. Il y a eu les accords dont on parle ici, et l'organisation de cette immigration du Maroc, d'Algérie vers la France, etc. Donc ça, c'est un schéma qui s'est mis en place dans cette période des Trente Glorieuses, mais qui est terminée.
Et cette mondialisation s'accompagne de ce vocabulaire que l'on entend dans le documentaire, à savoir l'impression que la main-d'œuvre est assimilée à un produit, à un bien qui circule.
Est-ce que c'est spécifique des migrations ?
On s'interroge, en tout cas, en l'entendant.
Oui, bon, c'est un point de vue qui, je pense que ça relève de manière générale des relations entre employeurs et employés. Là, je pense qu'on sort un peu de notre domaine de compétences, mais c'est vrai que on peut parler d'exportation de main-d'œuvre. Oui, c'est comme d'un produit. Maintenant, il y a cette phrase qui est assez connue, hein, qui dit on voulait des travailleurs, on a eu des hommes. C'est-à-dire qu'on ne fait pas qu'importer un produit travail, un facteur travail, on importe des êtres humains, et ces êtres humains ne font pas que travailler, ils font aussi d'autres choses, ils s'installent, sont des citoyens, sont des consommateurs, ils font venir leur famille, et c'est comme ça que se forment les communautés migratoires, les diasporas, les réseaux de migrants, avec toutes les conséquences positives et négatives, sociales, économiques, politiques, qui nous intéressent, nous, en tant que chercheurs en sciences sociales.
Vous écoutez France Culture, Entendez-vous l'écho, par Maïlys Bessery.
Il existe près des écluses un bas quartier de bohémiens dont la belle jeunesse s'use à démêler le tien du mien. En bande, on s'y rend en voiture, ordinairement au mois d'août. Ils disent la bonne aventure pour des piments et du vin doux. On passe la nuit claire à boire, on danse en frappant dans ses mains, on n'a pas le temps de le croire, il fait grand jour et c'est demain. On revient d'une seule traite, gai, sans un sou, vaguement gris, avec des fleurs plein les charrettes, son destin dans la paume écrit. J'ai pris la main d'une éphémère qui m'a suivi dans ma maison. Elle avait les yeux d'outre-mer, elle en montrait la déraison. Elle avait la marche légère et de longues jambes de fente. J'aimais déjà les étrangères quand j'étais un petit enfant. Celle-ci parla vite, vite de l'odeur des magnolias. Sa robe tomba tout de suite quand ma hâte la délia. En ce temps-là, j'étais crédule, un mot m'était promission, et je prenais les campanules pour les fleurs de la passion.
Et les mots de Louis Aragon, chantés par Léo Ferré, L'étrangère, au milieu de cette émission. Elle m'ouvre donc parler d'émigration. Et l'émigration, dans la théorie traditionnelle du commerce international, la théorie économique, le libre-échange se fonde sur la spécialisation de chaque pays. On a parlé des avantages comparatifs dans cette émission hier. Et elle postule l'immobilité des facteurs de production, travail et capital.
Oui, alors non, ça c'est une simplification de la théorie traditionnelle du commerce international.
Bien sûr.
Ensuite, cette simplification a été relâchée par un économiste qui s'appelle Mundell, qui dans un article de 1957, publié dans l'American Economic Review, relâche l'hypothèse d'immobilité des facteurs de production. Il le fait pour le capital, mais on peut très bien le faire pour le travail. Et l'idée de base de cette théorie, c'est que si les pays se spécialisent en fonction de leurs avantages comparatifs, qui dans les secteurs intensifs en travail qualifié et d'autres dans les secteurs en travail non qualifié, par exemple, eh bien, la mobilité des marchandises en libre-échange complet devrait se substituer à la mobilité des facteurs de production, parce qu'on suppose simplement que les économies sont en plein emploi, que les facteurs de production sont pleinement utilisés, et que donc le pays du Sud qui aurait des avantages dans le textile plutôt que dans l'électronique, eh bien, il se spécialiserait dans le textile, et au lieu d'exporter ses travailleurs, il exporterait ses marchandises.
Bref, c'est un modèle théorique.
Donc c'est un modèle théorique, évidemment. C'est un modèle théorique de substitution entre la mobilité des marchandises et la mobilité des facteurs de production. Sur le plan empirique, on n'observe pas ça. On observe plutôt une relation de complémentarité, en dépit de ce que nous avions dit tout à l'heure, du fait que les coûts de migration ont augmenté dans la mondialisation. Malgré cela, la migration internationale, au moins dans un premier temps, parce qu'à long terme, on observe le fait que les pays, plus ils se développent et plus ils s'intègrent et plus ils s'ouvrent, etc., à très long terme, plus ils deviennent des pays d'immigration. Mais dans un premier temps, au moins jusqu'à un certain seuil, d'ouverture commerciale. L'ouverture commerciale est plutôt complémentaire d'émigration internationale.
Donc il y a eu cet écart entre ce qu'avait pensé la théorie et le modèle
surtout,
HOS.
Je dirais que du point de vue théorique, ça a influencé les politiques commerciales également. Si on regarde la manière dont l'accord de libre-échange nord-américain a été constitué, il avait pour objectif également la faible mobilité des personnes, donc des travailleurs, au profit d'une libéralisation plus complète des marchandises. C'était le cas dans l'accord de libre-échange euro-méditerranéen. Mais on est sorti un petit peu de ça aujourd'hui.
Alors, pour reprendre cette histoire, Hillel Rapoport.
Non, je voulais peut-être compléter ce qui vient d'être dit, parce que je crois que c'est assez intéressant. Effectivement, on a un modèle qui sert de cadre de référence mentale, où, quand on. Le mot-clé qui était employé par Moub, c'est le bon mot, c'est le mot de substitut. Donc, si on bouge les marchandises, on s'attend, si les biens circulent, on s'attend à ce que les prix des biens convergent et donc les prix des facteurs de production, notamment les salaires, convergent et donc réduisent les incitations à migrer. Donc si on a plus de commerce...
Parce que la théorie classique imaginait que la différence de salaire, c'était la principale détermination de la migration.
Voilà.
C'était
le déterminant de la migration. Donc si on réduit les écarts de salaire, on va avoir moins de migration. Donc si on fait plus de commerce, on va avoir moins de migration. Et ça, on le constate, toutes les études empiriques donc montrent le contraire. Que quand on a, alors il faut voir les choses dans l'autre sens, inversement, dans le modèle néoclassique, si on a plus de migration, on va avoir moins de commerce. D'accord ? Les deux sont substituts l'un à l'autre. Et même chose avec les capitaux, si on a plus de commerce, si on bouge les marchandises, on n'a pas besoin de bouger les capitaux. Si on bouge les capitaux, on n'a pas besoin de bouger les marchandises ou les hommes. Donc ces trois composantes-là doivent normalement se substituer les unes aux autres. Or, les études empiriques montrent qu'au contraire, elles vont dans le même sens. Alors, quel est le mécanisme qui a derrière ça? En tout cas, celui qui a derrière le fait que les migrations, au lieu de réduire le commerce, l'augmentent, c'est les coûts de ce qu'on appelle les coûts de transaction. Pour commercer, il y a des coûts importants... au commerce, il y a des coûts d'information, des coûts de faire des transactions elles-mêmes, d'avoir l'information pertinente pour savoir où s'installer, construire un réseau de distribution, trouver des partenaires, etc. Et les migrants, le fait qu'il y ait des migrants d'un pays A dans un pays B réduit ces coûts de transaction et donc augmente le commerce. Et donc on a en fait un cercle virtueux, si vous voulez, entre les différentes...
Entre les échanges commerciaux et la mobilité des travailleurs.
La mobilité des travailleurs, exactement.
Qui serait complémentaire.
Tout à fait. C'est ce qu'on observe avec le